Yana, elle va jusqu'où dans son développement personnel?
Jusqu'où? Elle va jusqu'à tout remettre en question et jusqu'à ouvrir la porte au mystérieux. Donc je pense que là aussi, à la fin du livre, elle se pose la question de savoir, et le divin, c'est quoi? Pas le Dieu, le Dieu dans son grand fauteuil qui juge et qui est dogmatique, mais le divin, la notion de magie dans la vie. Et là, elle trouve quelques réponses et elle partage ça avec sa coach.
C'est beau d'avoir été jusque-là dans les hauteurs. Qui sont un petit peu les êtres qui t'ont inspiré par rapport à ce développement, on va dire, jusqu'au mystère?
Alors, mon premier mentor a été Jacques Salomé. Jacques Salomé a été vraiment celui qui a été le révélateur, parce que j'avais 25 ans, je suis tombée sur un livre qui s'appelait, qui existe toujours, « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Et ça a été le premier déclic de ma vie privée, enfin de ma vie de développement personnel. Et j'ai commencé un parcours de lecture, de stage, et donc tout en travaillant dans un système classique, j'étais dans l'entreprise pharmaceutique, tout à fait classique. Et puis encore un peu après, par d'autres rencontres, d'autres lectures, Christiane Singer a été aussi une belle initiatrice pour moi à ce moment-là. Et puis à un moment, au moment de la naissance de mon deuxième enfant, j'ai fait un grand, grand changement de cap, parce que j'étais licenciée, j'étais déplacée. Et je n'ai pas accepté le déplacement, j'ai choisi de quitter l'entreprise. Et je me suis dit, mais je ne suis pas un pion, je veux être... Je faisais quelque chose que j'aimais bien. Je travaillais en anesthésie dans une société pharmaceutique, et donc j'apprenais aux médecins à endormir les gens. Et donc après, je dis, non, ce n'est pas ça que je veux faire, je veux apprendre aux gens à se réveiller, justement. On n'est pas des moutons et on doit arrêter de se laisser faire et de se laisser endormir. Et donc j'ai dit, il faut que je trouve un outil pour aider les gens à se réveiller. Et je ne savais rien, à ce moment-là, on était en 2001, je ne connaissais pas le coaching, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Et en passant dans une librairie, ce n'était pas ici, mais c'était au centre-ville, j'ai vu en grand, dans une, je ne sais même plus quelle librairie c'était, au milieu de la vitrine, un livre coaché. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ça. Et puis j'ai acheté ce livre. Et tout de suite, je me dis, mais c'est ça que je veux. Je ne veux pas travailler avec des gens qui sont malades. Je veux travailler avec des gens qui vont bien et qui veulent encore aller mieux. Et c'est le coaching que je veux faire. Et à l'époque, mon ex-mari, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu connais au coaching, à l'entreprise? Comment vas-tu? Enfin, tu n'y connais rien à ce domaine-là. Je me suis dit, je vais apprendre. Et donc, j'ai décidé de commencer une formation au coaching à l'époque... tout en restant employée dans l'entreprise. Et très rapidement, en 2002, j'ai lâché l'entreprise pharmaceutique pour me lancer comme coach. Et là, j'ai rencontré d'autres mentors. Quand tu me posais la question sur les mentors, j'ai lu Jean-Yves Leloup, qui était pour moi aussi un mentor plus spirituel au niveau d'une approche de la thérapie de l'être. Lui, il travaille vraiment avec les thérapeutes d'Alexandrie. Et ça m'a vraiment parlé, travailler vraiment l'être profond. J'ai aussi fait un chemin avec Ama, qui est un maître spirituel indien. Donc ça c'est le chemin, je vais dire, spirituel. Et puis je me suis formée à l'analyse transactionnelle, je me suis formée aux outils de psychologie énergétique. Donc voilà, j'ai mis dans mon sac à outils, dans ma boîte à outils, plein d'outils que j'ai tout rassemblé pour en faire un coaching évolutif. Voilà.
Et ce livre est ton premier livre,
voilà,
ton premier roman.
Publié.
Publié, d'accord.
J'en ai encore deux dans les tiroirs, et voilà.
Tu as déjà reçu quelques commentaires positifs. J'ai toute une longue lettre ici que je ne veux pas vous lire. J'ai envie d'aller juste à l'essentiel, qui dit que ce livre donne envie de vivre et d'aimer. On va à l'essentiel.
Merci.
Alors, peut-être une toute dernière question que tu veux vraiment par rapport à ce livre qui vient de sortir.
Alors, mon objectif en écrivant ce livre, c'était aussi de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Parce qu'actuellement, je forme à peu près 25, 30, ouais, entre 25 et 40 coachs par an. Et donc, ces gens-là, je les initie au coaching évolutif. J'avais envie d'ouvrir la porte à pas que des gens qui veulent devenir coach, mais à tout le monde. Donc, ça, c'était mon objectif. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai envie que ce livre soit vraiment un outil de conscience pour les gens, qui soit vraiment une aide pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Parce que finalement, plus on sera ensemble à être pleinement soi-même, à être autonome, à faire ce qui est juste pour nous, au mieux le monde fonctionnera. Tant qu'on sera coincé dans des systèmes en étant frustré de devoir faire des choses qui ne nous conviennent pas, à ce moment-là, on sera coincé quelque part et malheureux. Et donc, mon idée, quand je mets une voie vers le bonheur, c'est que plus on est proche de sa quintessence, de qui on est vraiment, plus on rayonne, et que si tout le monde peut rayonner comme ça, parce qu'il est heureux, parce qu'il fait ce qu'il aime, eh bien, le monde sera un peu plus meilleur. Voilà. Mon objectif.
Vos souhaits. On va peut-être faire rayonner les questions. En espérant qu'il y en ait une première qui fuse de l'un d'entre vous. Qui a lu le livre déjà?
Question.
Deux personnes. Une question peut-être à l'auteur. Monsieur.
Une simple question. Vous avez été formé à quelle école,
en fait? Le coaching? Alors, j'étais formée au Canada, coaching de gestion. Donc, c'était une école... à l'époque, quand je me suis formée au coaching, il n'y avait pas d'école en Belgique. Donc, j'ai fait un peu le tour du marché et il n'y avait que des écoles en ligne. Ou bien à Paris, il y avait déjà une autre école à Paris. Et en Belgique, il n'y avait rien. Donc, je me suis formée à l'école de coaching de gestion. Et comme je ne suis pas très très forte, je ne savais pas que coaching de gestion, ça voulait dire management. Donc, je me suis rendu compte que c'était très entreprise. Mais c'était tout à fait ce qui me convenait à l'époque, parce que j'étais dans l'entreprise et j'ai tout de suite démarré le coaching d'entreprise. Je travaillais à l'aéroport de Charleroi pendant 3 ans, à coacher les managers en entreprise. Et je pratiquais directement ce que j'apprenais à l'école en cours du soir. Donc, c'était très... très pratique. Et donc, j'ai été certifiée en 2005 par l'International Coach Federation. Et en 2005, j'ai créé ma propre école qui s'appelle Créa Coach. Merci. Une autre inspiration de question, Stéphane.
Si on devait donner un mot francophone, un mot coach, quel serait le mot qui te conviendrait le mieux?
Alors, au début, quand j'ai commencé à être coach, je m'étais accompagnatrice de réussite. Et puis, après, je me suis dit, c'est moins la réussite que l'accomplissement. Je suis vraiment plutôt quelqu'un qui accompagne à l'accomplissement. Donc, accompagnatrice, c'est difficile. C'est pas quelqu'un qui tient la main non plus, le coach. C'est révélatrice aussi. Hein. Ce mot-là est aussi utilisé par des coachs. Révélatrice de talent, de potentiel. Ce mot-là, on révèle, après les gens font ce qu'ils veulent de ça. Soit ils ont envie de mettre en pratique leur prise de conscience, soit ils s'arrêtent juste à la prise de conscience. Et donc c'est ça aussi le coaching évolutif, c'est s'adapter à ce que la personne veut réellement faire de ce qu'elle découvre d'elle-même. Donc voilà, révélatrice, accompagnatrice.
Quelle est la différence entre coaching évolutif et intelligence émotionnelle?
Alors, l'intelligence émotionnelle est un outil qui rentre dans le coaching évolutif. Donc, quand on travaille en tant que coach, on a une structure de questions qui nous permet de partir d'une situation problématique pour aller vers un objectif, aller vers quelque chose que l'on veut atteindre. Mais dans le coaching évolutif, on va intégrer, je ne veux pas dire « mais », je vais dire « et », on va intégrer toute la dimension émotionnelle de la personne en même temps que le faire, en même temps que l'action. Donc c'est une des questions que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui est touché chez toi ? Qu'est-ce qui est heurté ? Et donc là, on va parler de valeur aussi. Et donc quand on a une valeur qui est touchée, on va se mettre en colère. Donc on va avoir des sensations d'irritabilité, de frustration. Et donc je vais démystifier tout ça en accueillant avec beaucoup de bienveillance l'émotion de la personne. Parce qu'elle a le droit d'être en colère. J'accompagne des gens qui sont victimes de harcèlement, victimes de manipulation au travail et qui veulent changer et qui sont tout à fait perdus, ils sont plein dans la confusion. La première chose à faire, c'est d'accueillir l'émotion qui est là. Et c'est de les renourrir pour leur faire regagner de la confiance en eux. Avant de chercher un autre boulot, tout de suite, immédiatement, de remettre des briques sur un sol mouvant, c'est pas la solution. Il faut d'abord consolider la gestion émotionnelle de la personne. Et là, j'ai des outils aussi de psychologie énergétique en gestion émotionnelle qui sont très puissants.
Pour rebondir peut-être sur la question de monsieur, parce que c'est important au niveau des frontières. Hein, le coaching n'est pas de la thérapie, le coaching n'est pas du conseil, ce n'est pas de la formation. Donc comment est-ce que toi, tu mets les limites ?
Alors, pour moi, c'est pas toujours évident parce que comme je suis formée à beaucoup d'outils thérapeutiques, il y a certains coachings que je peux faire au niveau thérapeutique. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais de la thérapie de l'instant. Je ne vais pas faire de la thérapie du passé. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. On va chez un psy pour comprendre, pour vraiment se connaître et savoir ce que l'on porte dans notre passé, dans notre histoire. Puis on va chez un thérapeute pour nettoyer des traumas. Et souvent, j'ai des psys et des thérapeutes qui m'envoient des gens après et qui disent bah « Maintenant, tu vas chez Isabelle parce que tu peux mettre en action maintenant. » Et donc là, je peaufine encore ce qu'il y a à nettoyer pour aller de l'avant, pour mettre en place sur qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as nettoyé tout ça? Comment est-ce que tu peux te mettre en mouvement? Donc c'est ça la grosse différence entre psy. Parce qu'on dit psychologue, c'est du logos. Et je crois que les gens ont besoin de logorer aujourd'hui. Les gens ont besoin de parler, d'exprimer tout ce qui ne va pas et d'avoir une bonne écoute bienveillante. Et c'est une partie de ce que je fais, mais je ne fais pas que ça. Je suis surtout dans la mise en action, la prise de conscience. Et quand la personne a besoin de logorer, a besoin d'aide familiale sur son passé, à ce moment-là, je délègue et je l'envoie chez des personnes de ressources, psychothérapeutes ou psy, ou psychiatre. Ça peut être ça, quand il y a une pathologie plus sévère, que je ne peux pas diagnostiquer, mais où je vois que la personne est dépressive ou en burn-out, je ne sais pas, moi, faire la différence. Voilà.
Une autre question, on a le temps.
De ce que j'entends, de ce que je vois, très souvent quand on est sur ces chemins de remise en question, de prise de recul, de questionnement, d'introspection, on a des populations souvent dans les groupes de conférences, de formations, où il y a 8 femmes et 2 hommes, pour 10. Est-ce que tu aurais la force, la puissance et l'imagination de réécrire ce même livre avec 2 hommes? Un coaché mâle, pour le dire ainsi, et parce que quelque part dans ton idée de vouloir diffuser, rayonner, que ça soit porté plus loin, partager, faire éveiller les consciences humaines, est-ce que le rendez-vous dans le temps, aujourd'hui, dans l'époque, c'est pas un petit peu aussi que les hommes descendent de leur piédestal?
Alors, je pense que. Merci pour ta question.
J'ai un côté féminin très, très développé, donc j'ai aucun mérite.
Donc, en effet, j'ai des hommes qui l'ont lu et mon premier feedback positif français du mois d'avril, puisqu'il est sorti le 17 avril en France, c'est un homme. Donc, il m'a dit c'est tout à fait ce que je voulais lire. Donc, je pense que ça ne dérange pas les hommes que ce soit une histoire entre 2 femmes. Parce que si vous dites, nous, entre femmes, on a lu toutes les histoires entre hommes, dans Paulo Coelho, dans L'Alchimiste. C'est souvent des hommes, les grands sages. Alors, Frédéric Lenoir aussi, qui est une de mes références aussi. Oui, il y a aussi des grandes prêtresses qui sont des références dans ces livres-là. Eh bien, je ne sais pas si je pourrais l'écrire dans l'autre sens, parce que je ne suis pas un homme, mais j'ai quand même dans le livre introduit un homme qui vient, titiller Éléonore, et je me suis mis dans la peau d'un homme pour vraiment aussi se dire que les hommes qui sont dans ce chemin d'évolution cherchent aussi quelque chose de plus absolu. En fait, le chemin idéal d'évolution personnelle, c'est de faire la paix entre sa partie homme et sa partie femme à l'intérieur. Et donc, nous, femmes, on a pris déjà l'habitude d'être un homme et une femme à la maison depuis des années, parce qu'on a quand même beaucoup de choses sur les épaules. Les hommes n'ont peut-être pas encore pris l'habitude de développer leur part féminine. Certains l'ont spontanément et l'ont développé, c'est une évidence. Et d'autres sont à la découverte de leur part féminine et sont troublés. J'ai eu un jeune homme qui est venu en consultation il y a un mois. Il vient de se faire virer et il pleurait parce qu'il était tout d'un coup à la recherche de sens, de valeur, et il me disait je ne peux pas en parler dans mon monde. Ma femme ne comprend pas pourquoi je ne prends pas un autre job de même style, dans la logistique bien opérationnelle, ingénieur. Et il dit, moi, j'ai envie de développer des concepts plus humanistes, d'aller vers l'écologie, préserver la terre. Donc, il développe ce côté valeur, qui est plus le côté féminin, mais ce n'est pas encore tout à fait bien reconnu. Donc, j'ai envie de dire que les hommes se lèvent et agissent en osant montrer leur vulnérabilité et en osant parler de valeur, de ce qui les touche à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire que il y aura encore plus d'hommes dans ces formations, parce que l'homme va aussi aller à la recherche de sa part féminine, de sa part divine aussi, hein, d'oser aller écouter qui il est vraiment.
Quel est le ratio homme-femme au niveau des formations de tes participants ?
J'ai toujours un homme, au moins sur 12. J'en ai au moins toujours un, mais j'ai souvent 3 hommes et 9 femmes. Enfin, quand j'en ai 12, c'est à peu près ça. Voilà. Un quart. Maintenant, je viens de faire une formation en entreprise. Alors, ce n'était pas du coaching évolutif, parce que c'était du team coaching chez Siemens, pour vous dire, c'est une grosse boîte, et c'était que des hommes. Il y avait 3 femmes et 35 hommes. Et j'ai appliqué un outil de bienveillance, et j'ai senti qu'ils étaient très contents d'appliquer ça, et qu'il y avait beaucoup de légèreté et de remise en question. Donc, je ne vais pas parler nécessairement de coaching. Je suis pleinement qui je suis et je transmets ces valeurs sous forme d'exercices pratiques, sous forme de jeu. Et je vois que ça fait plaisir, que ça bouge et qu'ils sont demandeurs. Je crois qu'il ne faut pas mettre les hommes dans une catégorie, les femmes dans une autre. On est tous demandeurs de bienveillance, respect, engagement, confiance. Et quand on peut mettre ça ensemble, c'est magique. Je crois qu'il faut oser être pleinement soi dans tous les domaines de sa vie, que ce soit homme-femme ou femme-femme ou homme-homme. Je crois que c'est peut-être le défi des hommes, c'est d'oser être un peu féminin avec d'autres hommes. Je pense que ça va aider d'autres hommes à montrer aussi leur féminité, leur part de sensibilité, de douceur.
Certains disent que c'est par le féminin qu'on aime, donc
oui.
Chaque homme
a une part féminine. Tout à fait. Ouais. Oui, et quand on est amoureux, on est et c'est ce qui arrive aussi dans le livre. Il y a un moment d'amour et on est pleinement dans le pour, dans la joie, dans la liberté. On voit plus rien de ce qui ne va pas bien. Donc c'est ça là. On voit la vie en rose. Et donc l'idée n'est pas de rester utopiste, il faut bien voir la réalité des choses, mais de choisir de voir la vie en rose en conscience, de rester dans cet état d'amour de soi d'abord. Je pense que c'est aussi important d'être, bon, pas amoureux, pas se vénérer, mais de s'aimer suffisamment pour pouvoir garder nos lunettes roses sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, pour le rendre un petit peu plus rose que ce qu'il est aujourd'hui.
Merci, merci pour ces belles paroles de sagesse.
Merci.
On la touche. Hein, Une toute dernière question peut-être aujourd'hui. Oser.
Au bar peut-être.
Voilà, alors les dédicaces sont ouvertes.
Ok, merci. Voilà, mais je vous remercie. J'étais très heureuse, je te remercie Patricia de cette interview et je vous remercie aussi très fort et je suis là si vous voulez pour vous en parler un peu plus et donc Patricia aussi qui connaît bien le livre et les deux lecteurs là, Jane et Stéphane qui sont mes proches. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
Bonsoir. Merci.
Un sourire.